les tentations de Jésus-Christ, continuité par rapport au livre que nous avons lu précédemment sur la vie du roi David. Jésus-Christ est le vrai roi. Tous les rois qu'il y a eu avant lui ne sont que, dans la Bible notamment, comme David, ils ne sont que des petites images de ce qu'est le véritable roi, celui qu'on appelle le roi des rois. Donc je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire plusieurs textes. Le premier texte se trouve dans Matthieu 4. Matthieu 4, versets 1 à 11, il est écrit. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et la gloire, et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. » En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Deuxième lecture dans Marc. Marc 1, verset 12. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il y passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Dernière lecture. Luc 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours, et là, quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Mais Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Puis il dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car il m'a été donné et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. C'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. On va prier. Père, nous te remercions pour ta parole. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Merci Seigneur pour ta résurrection. Tu es merveilleux Seigneur. Seigneur, parle à ton peuple Seigneur. Seigneur, ne permets pas que ton serviteur parle, mais que ce soit toi Seigneur qui parle à ton peuple, à ceux qui te connaissent, afin qu'ils écoutent ta voix Seigneur, afin que leur vie soit transformée, afin que nos vies soient transformées. Oh Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'élevons. Tu es le Dieu trois fois saint. Reçois toute notre adoration. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ est le vrai roi. Dans Apocalypse 1, il nous est dit qu'il est l'alpha, l'oméga. Dans Apocalypse 19, il est dit qu'il est le roi des rois. La royauté du Christ n'est pas d'ici. Ce ne sont pas les hommes qui élisent Jésus roi. Jésus est roi d'éternité, que quelqu'un le veuille ou non. Jésus est roi d'éternité. Jésus est le vrai Israël. C'est lui qui rassemble les 12 tribus. Jacob n'était qu'une image des 12 tribus qui allaient être rassemblées, mais désormais c'est Jésus qui les rassemble. Et voyez-vous, Jésus est extraordinaire parce que pendant 40 jours, il va jeûner. Tout ceci se produit juste après son baptême. Tout l'enseignement de Christ, même ses mouvements, est un enseignement. Christ, avant d'aller en mission, avant de choisir les apôtres, Christ passe par les eaux du baptême, ensuite il jeûne 40 jours, ensuite il est tenté, ensuite la mission commence. Si jamais tu viens d'avoir le baptême, ensuite tu vas jeûner, ensuite tu seras tenté, ensuite ta mission va commencer. C'est le même chemin que le Christ. C'est extraordinaire de voir dans les évangiles, je ne sais pas si vous avez vu le clin d'œil, nous avons lu Matthieu, nous avons lu Marc, nous avons lu Luc, mais il y a un évangile qu'on n'a pas lu. On n'a pas lu Jean. Jean ne relate pas la tentation de Christ. C'est curieux. Hein? Pourquoi Jean ne relate pas la tentation de Christ? La grâce est de voir que même lorsqu'on a partagé les affaires du Christ, on les a divisées en quatre. Et les quatre forment un ensemble. Jean ne relate pas la tentation du Christ parce que Jean commence dans la mission. C'est déjà la mission. Lorsqu'on lit le texte de Jean, on est déjà dans la mission de Christ. Jean ne relate qu'une partie du baptême et ensuite il entre dans la mission. Donc, parce qu'il y a toujours un enseignement dans ce que Christ fait. Donc, lorsque tu lis les évangiles, tu dois lire les quatre. Sinon, tu ne vas pas comprendre. Il faut lire les quatre évangiles. Un autre aspect des évangiles, des quatre, qui sont très importants, c'est de voir que Marc dit que Jean se trouvait dans, que Jésus se trouvait dans un lieu où il y avait les bêtes sauvages. Ce que les deux autres évangiles ne disent pas. Mais regardez aussi la subtilité des écrits, la grâce de Dieu, c'est que si vous lisez Marc et vous lisez Luc, vous allez voir que les deux questions ne sont pas dans la même séquence. Dans l'évangile de Matthieu, il commence par lui dire « faut te jeter », la deuxième question. Dans l'évangile de Luc, cette question devient la troisième question. Dieu est bon parce que dans tous ses évangiles, il y a toujours plus de détails. Et je remercie le Seigneur qu'il n'y ait pas qu'un seul évangile, qu'il y en ait quatre. Parce que nous avons besoin de dépecer l'agneau. Vous savez, quand on mange un agneau, on le coupe en plusieurs morceaux, non? Il faut dépecer l'agneau pour bien se rassasier. La gloire est pour Jésus. Jésus est bon. Jésus est bon parce que même dans le choix des quatre évangiles, il y a plusieurs prophéties qui apparaissent. Mais je ne vais pas sortir toutes les prophéties. Une des prophéties qui peut apparaître, c'est que Jésus, juste après la tentation, va choisir quatre pécheurs. Vous connaissez ces quatre pécheurs. Il y a des frères. Jean et son frère, Jacques, ce sont des pécheurs dans les deux sens. Hein. Pécheurs professionnels, mais pécheurs parce qu'ils commettent des péchés. Simon, Pierre et son frère André, pécheurs professionnels, pécheurs parce qu'ils commettent des péchés. Et toi et moi, nous sommes de cet évangile. Pourquoi? Y a-t-il des pécheurs professionnels dans la salle? Y a-t-il des gens qui pêchent dans la salle? Je pense qu'il y en a beaucoup. Voilà, cet évangile te concerne. Il est pour toi et moi. Et c'est pour ça que Christ est allé à la croix. Voyons tout de suite le premier échange. Le premier échange est très subtil. Le diable arrive, il lui dit, si tu es fils de Dieu. Le diable commence toujours comme ça. Il te dit si c'est vraiment ton identité. Et souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, lorsqu'il approche Adam et Ève, remarquez que la conversation se fait avec Ève. Ne fermez pas les yeux sur l'obscurité d'Adam qui ne dit rien. C'est très obscur, hein? D'être là pendant une conversation et de ne rien dire. Ça veut dire qu'on est consentant. Ça veut dire que ceux qui pensent qu'il n'y a que Ève qui parlait se trompent parce que Ève parlait pour Adam et Ève. Si Adam n'était pas consentant, il aurait dit « Non, je ne suis pas d'accord. » Il ne l'a pas dit. Du coup, le serpent va leur dire « Mais vraiment, est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur a dit ? Est-ce que vraiment ton identité, c'est vraiment celle-là ? Est-ce que tu es vraiment fils de Dieu ?» Vous voyez, c'est la même chose que le serpent va utiliser face à Christ en commençant par dire « Si tu es vraiment le fils de Dieu. » Et peut-être que ce matin, tu te poses la question « Suis-je vraiment le fils de Dieu ?» Parce que c'est ça l'interrogation dans laquelle le diable veut t'emmener. Si tu es fils de Dieu, ordonne que les pierres soient changées. On aurait pu dire, remarquez, dans l'évangile de Luc, vraiment, la parole de Dieu a des détails. Dans l'évangile de Luc, c'est Luc qui dit « il eut faim ». On n'a pas dit dans Matthieu. Dans Matthieu, on dit 40 jours. Mais dans Luc, on te rajoute « pendant 40 jours, il n'a ni mangé ni bu ». Mais il a faim. Christ a faim. Le diable lui dit, je sais que tu as faim. Moi, ma fille a faim, elle me dit toujours, papa, il y a le ventre qui commence à faire du bruit, il faut que je mange. Donc, on n'a même pas des fois besoin de dire, il y a le ventre qui gargouille. Le diable le sait. Et je vous rappelle que dans Genèse 3, le Seigneur maudit la terre, maudit le diable. Et qu'est-ce qu'il dit au diable ? Tu te nourriras de la poussière. Voyez le lien avec la pierre. Le diable t'enverra toujours vers la poussière. Les choses basses, les choses de la chair, c'est là que le diable va t'emmener. C'est essayer de faire parler ta chair. C'est la première attaque. Tout le monde a été attaqué par le diable sur la chair. Tout le monde. Avec des mauvais désirs. Trop manger, trop boire, mauvais désir sexuel, toutes ces choses, le diable les utilise. Parce que lui, il se nourrit du sol. Et c'est pour ça qu'il dit à Jésus, transforme la pierre. Il n'a pas dit autre chose. Il a regardé la pierre. Vas-y, transforme la pierre. Mais il est face au roc. Vous savez que le roc, ce n'est pas une petite pierre. Le roc, c'est Jésus. C'est une grande pierre. Et pendant que le diable incite l'être humain à avoir des désirs terrestres, des désirs charnels, Christ va donner la réponse qui peut nous aider. Quand le diable t'attaque sur ta chair, c'est qu'il dit, il ne fait que répéter Deutéronome 8, verset 3. Et il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Moi, quand j'ai lu pour la première fois cette réponse de Jésus, j'avais pas de Doliprane sous la main. Christ est trop performant. Un homme ne peut pas avoir une sagesse comme ça. On est en train de te parler de ton besoin immédiat. Tu n'as pas mangé, t'as que dalle, t'as faim. Toi, tu réponds dans les besoins spirituels, d'en haut. C'est-à-dire que Christ emmène le débat vers le ciel. Alors que nous, en tant qu'humains, si on m'attaque sur la chair, je vais essayer de répondre par la chair. Non, c'est par l'esprit que tu réponds. Et c'est ça la grâce de Dieu. Souvenez-vous d'Éphésiens 6 qui te dit que finalement tu as plusieurs armes. En Jésus-Christ, tu as plusieurs armes. Et une des armes offensives dont dispose le croyant, c'est la parole de Dieu. Quand le diable vient avec ses mauvaises pensées te dire, ah, regarde cet homme-là, il est intéressant. Regarde cette femme, elle est belle celle-là c'est pour toi. Ne la laisse pas passer. Ta réponse est dans la parole de Dieu. Tu dois répondre à ses pensées en citant la parole de Dieu. Il n'y a que comme ça que tu peux faire barrage à la première attaque. Je rappelle qu'il y en a eu 3. Ça, c'est la première attaque. Ce n'est que la première attaque. Tu réponds par la parole de Dieu. Le diable, mes amis, est d'une subtilité que vous ne pouvez pas imaginer. Dernièrement, j'ai suivi une prédication. Un pasteur avait mis à l'écran la chanson « We are the world ». Lorsqu'on lit la chanson « We are the world », ça paraît être une chanson pacifique, intéressante. Beaucoup d'entre nous l'avons chantée. Quand j'étais encore dans le monde, on chantait Michael Jackson. Ah Seigneur, est-ce qu'on savait ce qu'on disait? Déjà, il y avait la barrière de la langue, parce qu'on ne traduisait pas ce qu'on lisait. Mais je vous rappelle que dans « We are the world », Michael Jackson dit « Tu as transformé les pierres en pain ». Subtil, hein? Et qui a transformé les pierres en pain? Il dit « Dieu a transformé les pierres en pain ». Regardez bien la subtilité de Michael Jackson, qui, je vous le dis, était un sataniste. Parce que dans la Bible satanique, la tentation du Christ se traduit par la victoire de Satan. Et Satan transforme la pierre en pain. Et quand tu chantes « We are the world », tu chantes à la gloire de Satan. Vous comprenez ça? C'est curieux, hein, comment le malin est. C'est pour ça que Christ dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Ça signifie que la musique du monde n'est pas pour toi. Tu chantes le diable sans te rendre compte. Et quand tu te présenteras devant Jésus, tu diras « Ah, je ne savais pas. Désolé, vous avez une prédication aujourd'hui, je te dirai. » C'est la vérité, c'est tranchant. Voilà la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est de s'intéresser qu'aux choses de notre Père. Voilà ce que Jésus a dit à ses disciples. Il faut s'intéresser, je dois m'intéresser aux choses de mon Père. Pendant qu'il dormait, Christ priait. Mais pourquoi Christ priait-il tout le temps? Il passait des nuits entières à prier. Mais c'était pour être prêt face à la tentation. Mes amis, à la résurrection, des femmes ont couru, des hommes ont couru, des soldats ont couru. Mais cet aspect de la résurrection, je ne le voyais pas. Je ne voyais pas que quand on va vers Dieu, il faut courir, mes amis. Il faut courir. Il faut courir parce que le diable vient. Et lui, il vient avec toute une armée pour tuer, pour détruire, comme nous l'avons lu dans Jean 10. Il vient pour égorger. Mes amis, quand on vient à l'église, il faut courir. Il faut courir parce qu'il y a l'enfer derrière. Satan veut te tuer. Dieu veut te sauver. Dieu va te sauver. C'est ça la bonne nouvelle que nous avons. Parce qu'il faut bien être préparé pendant les moments de tentation. Si tu n'es pas préparé, tu tomberas plusieurs fois. Mais pour être préparé, tu dois passer du temps à la prière. La Bible est une arme offensive, mais la prière est une arme qui te protège. Elle te protège, il faut passer du temps à prier. Christ est arrivé à ce niveau-là parce qu'il était préparé. Quand on n'est pas préparé, on ne peut pas affronter Satan. Il blague avec toi comme il veut. Il blague avec toi comme il veut. Ah, je suis prêt, je suis en tout cas là, rien à faire. Moi, en tout cas là, rien à faire. Une jeune fille passe, tu te retournes. Satan, il y a une blague. Tu es préparé, non? Pourquoi tu la regardes? C'est facile, hein? Facile pour lui. Un jeune garçon te fait des clins d'œil, tu commences à t'arrêter. Tu commences à te mettre pas très loin pour savoir qu'est-ce qu'il va te dire. Tu es préparé? Es-tu préparé? Il faut t'intéresser aux choses de ton Père. Voilà le message que Christ a donné à ses disciples et le message qu'il nous donne encore ce matin. Intéresse-toi aux choses des cieux. Dieu s'occupera de tes choses terrestres.
C'est comme ça que la doctrine de la prospérité est entrée. J'ai faim, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'une grande maison, j'ai besoin... Toutes ces choses, Dieu peut te les donner, mais tu n'as pas besoin de pactiser avec le diable. Parce que c'est un menteur. C'est un menteur. Le seul objectif du diable est de prendre ton âme et de l'emmener en enfer. Il n'y a rien d'autre. Mais il peut te donner un semblant de gloire sur la terre. Un semblant de gloire. Parce que ces contrats, il y a toujours plein de contraintes dans ces contrats. Aussi subtil qu'un vrai banquier. Hein. Vous savez, chez les banquiers, quand nous signons pour ouvrir le compte, il y a plein de trucs écrits tout en bas. Là. Alors, tu ne peux pas lire avec tes yeux, il faut prendre une loupe pour regarder. Il y a des taux, il y a des, mais des choses, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire signer ça à quelqu'un. Mais le diable, c'est encore pire, parce que c'est ton âme qu'il veut. Mais à partir du moment où on lui résiste, comme le dit notre frère Pierre, dans 1 Pierre 5, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuit. Il fuit. Quand tu parles de Jésus, il ne peut pas rester. La deuxième question qu'il pose, ce n'est pas la même question dans Luc, mais on va prendre la deuxième question dans Matthieu, c'est que là, vous voyez, le diable, toujours dans sa subtilité, il cite le psaume 91. Mes amis, il faut connaître la Bible. Là, c'est basique. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut lire la Bible tous les jours. Parce qu'à un certain moment, frères et sœurs en Christ, même la prédication, vous ne pourrez plus la suivre. Il faut connaître la Bible. Parce que justement, le diable va dire le psaume 91 qui est vrai. C'est vrai. C'est un psaume écrit. Tu te jettes. Le Seigneur va envoyer des anges pour que ton pied ne heurte pas le sol. Il a dégainé aussi l'épée. Vous voyez, hein? On est dans Star Wars. Il dégaine l'épée, mais le diable n'est pas bête. Au début, il a sorti aussi son épée. Souvenez-vous, Moïse, il va jeter le bâton, mais Pharaon n'est pas paniqué. Il dit à ses magiciens, mais les magiciens jettent aussi. Mais eux aussi, ils peuvent faire ça. Mais le serpent de Moïse avale les deux serpents des magiciens. Le diable aussi connaît la parole de Dieu, il viendra te chuchoter à l'oreille. Mais ce n'est pas mauvais que tu aimes cet homme-là, même si c'est un homme marié. Il est fait pour toi, c'est comme Adam et Ève. On est dans la parole. Il s'est marié avec la mauvaise femme, c'est pour toi. Vas-y. C'est la parole, hein? Si tu n'as pas, parce que vous savez que la parole de Dieu marche toujours avec 2, 3, 4, 5 versets. Quand quelqu'un cite un verset, il faut qu'il vous en trouve un autre qui dit la même chose. Et il faut qu'il vous en trouve encore un autre qui confirme la même chose. Sinon, ça peut être tordu. Là, le diable, il tord le verset. Je te jette d'en haut. Si tu tombes, Dieu ne peut qu'intervenir. Mais il y a un autre verset encore plus fort que Dieu utilise, que Jésus-Christ utilise, qui est Deutéronome 6, verset 16, où il dit « Tu ne peux pas forcer la main de Dieu. » Est-ce que quelqu'un a déjà forcé la main de Dieu ici? Moi, je sais que j'ai forcé la main de Dieu. C'est très subtil. Quand tu dis au Seigneur « Moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. Pourquoi je n'ai pas ça maintenant ?» Tu es en train de forcer la main de Dieu. Tu es en train de forcer la main de Dieu. C'est subtil. La Bible te dit, je vous rappelle que dans le Notre Père, personne ne nous a obligés à dire que ta volonté soit faite. Où? Sur la terre et dans les cieux. Mais que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. C'est ça que tu dois chercher, n'est-ce pas? Mais pourquoi cherches-tu ta propre volonté? Vous voyez la subtilité? Et d'où vient ce désir de chercher notre propre volonté? Ceux qui nous ont précédés, gloire à Jésus. Cette conversation, en fait, est en train de nous ramener à la Genèse. Depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, vous retrouverez cette difficulté pour les êtres humains. C'est que le diable sait une chose, c'est qu'il peut t'attaquer par la chair, les convoitises de la chair, mais le diable sait une autre chose, c'est qu'il peut t'attaquer directement par ton orgueil. Parce que tu es orgueilleux. L'autre s'est marié, faut que je me marie. L'autre a une maison à 6 chambres, faut que j'ai la maison à 7 chambres. Tu es orgueilleux. C'est l'orgueil. Qu'est-ce qui a fait décider Adam et Ève de passer à l'acte? C'est parce que le diable a juste dit,
Dieu sait que si vous mangez le fruit, vous serez comme lui.
Ah, vous serez comme lui. Vous serez comme Dieu. Ça a résonné dans leur tête. Vous serez Dieu. Orgueil. Toi, tu veux devenir comme Dieu? C'est l'orgueil.
Quand j'ai commencé dans l'évangile, quand on parlait d'orgueil, d'humilité, Galates 5, les fruits de l'esprit, je trouvais merveilleux. L'humilité, oh Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Et vous savez, le diable est très subtil, c'est qu'il vous fait croire que vous êtes humble. Mais j'aime Jésus parce que Jésus va toucher le doigt là où il y a ton orgueil. Là où je travaillais avant, j'étais manager. Ensuite, je suis devenu manager de manager. Ensuite, il y a eu une restructuration, nos postes ont disparu. On est redevenu que manager, pas de manager. Ensuite, j'ai eu des conflits, je suis parti de là, je ne suis plus manager. Et c'est quand je ne suis plus manager que je me suis rendu compte, oui Seigneur, je suis orgueilleux, parce que pourquoi ça me fait mal de ne plus être manager? J'ai le même salaire, j'ai les mêmes avantages. Pourquoi ça me fait mal de ne plus avoir cette fonction? Voilà comment tu peux déceler dans ton cœur que tu es orgueilleux. C'est pour ça que Christ, le merveilleux, te dit, si on te gifle, tu fais quoi? Où est ton orgueil là? On t'a mis une vraie gifle. Vous savez les gifles qui font du bruit là? Ou même quand quelqu'un est dans le couloir, il a entendu que là, on a giflé. Christ te dit de tendre l'autre joue. Ton orgueil, que vas-tu faire? Moi je suis. Moi un homme ne peut pas me parler comme ça. Moi, une femme, elle doit s'abaisser devant moi. Un vrai dragon. Hein. J'aime Apocalypse, parce qu'il parle de bêtes. Des bêtes sauvages dont il est question. Ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains, mes amis. Et Israël était pareil. Dans Exode 17, vous pourrez lire, les versets 1 à 7, on voit comment Israël va faire le contraire de ce que Dieu attend de ce peuple. Parce que Dieu a béni ce peuple. Malgré ça, Israël est dans l'orgueil. Nous, nous sommes exceptionnels. Il n'y a que nous. Les autres, c'est rien. Ils ne voient pas que Dieu leur a fait une grâce. Dieu leur a fait une grâce. Et au passage, mes chers amis, des fois, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous pouvez être choqués. Vous pouvez être choqué et vous dire, ah mais Seigneur, il y a trop d'horreur. Il y a trop d'horreur dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu dit au peuple juif, quand vous arrivez, vous tuez tout le monde. Tout le monde, allez, il faut tuer, vous tuez. Des fois, il peut dire, laissez les enfants, et une surprise, et ceux qui ne sont pas mariés. C'est bizarre, hein? Et Dieu précise des fois, ceux qui n'ont point connu de femme ou d'homme. Ah, bizarre. C'est la grâce de Dieu. Vous vous souvenez des 10 vierges dans Matthieu? Il y a aussi des vierges dans l'Ancien Testament. C'est parce que justement tu dois être vierge pour être en contact avec Dieu. La virginité n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Parce que lorsque tu entends les fausses doctrines, attention à ta virginité spirituelle. J'aime le Seigneur. Il utilise toujours des images. Que ce soit pour les hommes avec la circoncision, que ce soit sur la virginité, homme-femme, le Seigneur est merveilleux. C'est un Dieu de grâce. Mais il fallait que le jugement de Dieu s'abatte parce que le texte de Marc, lorsqu'il dit que Jésus était avec des bêtes sauvages, nous donne une indication parce que les personnes qu'il y avait dans l'Ancien Testament que Dieu demandait à Israël d'éliminer, c'était des bêtes sauvages. Je vous rappelle juste les orgies qu'il faisait. Pendant les orgies, il y avait accouplement multiple avec le fils avec la mère, le frère avec la sœur, homme-homme, femme-homme, avec des oiseaux, des bêtes, il y avait tout ça. Et comme au Far West, il ne fallait pas tomber entre leurs mains. Parce qu'ils te découpaient en petits morceaux sans problème. Sans problème.
Ils étaient d'une fureur comme pas possible. Ils tuaient à tour de bras. Ils tuaient leurs propres enfants. Ils tuaient tout ce qu'il y avait autour. Ces gens-là ne pouvaient pas entendre la repentance. Même quand Dieu s'approchait d'eux pour qu'ils changent, ils ne voulaient pas changer. Pourquoi ? Parce que le mal s'était installé en eux. La Bible dit, de ton cœur de pierre, je vais te donner un cœur de chair. Le Seigneur est bon, hein ? Quand vous regardez votre rythme cardiaque à l'hôpital, vous voyez que c'est un cœur de chair qui bat, non ? Non, si tu n'as pas Christ, c'est un cœur de pierre. Parce que l'amour est de Dieu et c'est Dieu qui met l'amour en l'être humain pour qu'il puisse aimer son prochain comme lui-même. Sans Jésus, tu ne peux pas aimer quelqu'un comme toi. Impossible. Donc ce matin, retiens que de ton orgueil, le diable t'attaquera. Le Seigneur résiste aux orgueilleux. Dieu t'appelle à l'humilité. Même si on t'a froissé, même s'il y a des choses dans lesquelles tu as souffert, accepte au nom de Jésus-Christ de renoncer à t'élever pour que Dieu lui-même, s'en charge. On ne peut pas forcer la main de Dieu. Et mes chers amis, dans vos moments de prière, peut-être aujourd'hui, je vous invite à prier sur ce point. À demander pardon à Dieu. Parce que souvent, nous forçons la main de Dieu. C'est sa volonté qui doit se faire. Rien que sa volonté. Enfin, le diable va prendre Jésus, il va l'emmener au-dessus de Jérusalem, la ville sainte. Et il va lui dire, voilà, tout ça, je te le donne. Tous ces royaumes, je te les donne. Si tu te prosternes. La subtilité est plus dans le texte de Luc, où il dit à Jésus, « Tout ça m'a été donné, et moi je te le donne si tu te prosternes devant moi. » Là, il a laissé l'épée, vous avez remarqué ? Ce n'est plus la parole de Dieu qu'il cite. Il laisse l'épée. Il repart dans la convoitise charnelle. Souvenez-vous pour Adam et Ève. À part le fait que le diable leur ait dit, « Le fruit, si vous le prenez, vous serez comme Dieu. » Tout de suite, le texte révèle que Ève trouva le fruit beau, non ? Ça, c'est les restaurateurs savent faire ça. Ils font toujours des belles tables où c'est bien agencé. Quand je travaillais à Roissy, on avait un responsable comme ça. Quand il arrivait devant le stand, il y avait des sandwichs. Il refaisait toujours. Il disait, mais là, ça n'attire pas le client. Il faut quand il voit qu'il a une gourmandise en lui qui apparaisse. Le diable sait que toi, tu aimes bien les choses qui brillent. Subtilement, d'en haut de Jérusalem, c'est une vue paradisiaque. Peut-être quelques-uns ont été au-dessus de la tour Eiffel. Quand vous voyez Paris, c'est paradis, c'est très joli, en haut de la tour Eiffel. En même temps, c'est un clin d'œil parce que Christ viendra par Jérusalem. Christ apparaîtra par Jérusalem. Mais vous voyez la défiance du diable, c'est qu'il emmène à Jérusalem pour dire, tu vois d'en haut là, tout ça c'est pour moi. Non, mais Christ va venir de là. Il est en train de se moquer de son sauveur. Voilà ce que fait Satan. Mais Christ reste droit dans ses bottes. Il lui sort un autre texte, Deutéronome 6. On adore que Dieu. Mes amis, on adore que Dieu. C'est impossible d'adorer quelque chose d'autre que Dieu. On adore que Dieu. Personne d'autre dans ta vie, tu dois adorer. Adam était idolâtre, il aimait sa femme. Quand Ève parlait, il était là. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Tout ce qu'elle dit, j'aime ça. Elle est trop belle. Son désir était porté sur sa femme. C'est de l'idolâtrie. On adore que Dieu, celui qui est magnifique, c'est le Seigneur. Celui qui a été à la croix pour toi, c'est le Seigneur. Mais on aime sa femme ou son mari, attention. Après, il ne faut pas partir à la maison et dire, ah non, on a dit on adore que Dieu. Non, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il nous a fait cette grâce. Dans Exode 32, versets 1 à 6, vous pourrez lire aussi le peuple d'Israël. Après tout ce qu'ils ont vécu, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont traversé la mer, signe du baptême. Ça ne suffit pas. 40 ans, ils ont tourné dans le désert. Je vous rappelle que c'est un voyage de 3 jours. Hein, juste pour que vous ayez le contexte. Ils ont tourné avec des bêtes sauvages, des guerres à n'en plus finir. Et au bout d'un moment, ils vont dire à Aaron, « Bon, maintenant, nous, on a besoin d'un Dieu. » Avec tout ce qui s'est passé, vous cherchez un Dieu. Nous, on a besoin d'un Dieu. Lequel? Ah, nous, il nous faut un veau. C'est mignon, un veau. C'est mignon. Vous voyez l'idolâtrie? On fait un veau. Bon, donnez tous vos bijoux. On le fait comment? Ah, oh, on le fait comme ça. Ah, c'est joli. Allez, il y a des prêtres qui apparaissent. Ah, nous, on est grands prêtres du veau d'or. Voilà l'idolâtrie. Subtilité du diable. La dernière fois, j'ai suivi une publicité. Je me suis dit, mais c'est quand même osé. Hein. J'adore Dior. C'est osé quand même. J'adore Dior. Le diable te pousse à adorer les choses qui brillent. Les choses qui brillent. Convoitise des yeux. Les yeux, il faut les dompter, ces yeux-là qui partent partout. Là. Dès qu'il y a un truc qui brille, et une jaguar qui passe, ah, j'aimerais bien avoir cette voiture. Les yeux. Encore ses yeux. C'est pour ça que la Bible dit, ah, Jésus, il est terrible. Le même qui dit encore, si un membre de ton corps est une occasion de chute, il faut l'enlever. Frères et sœurs, il faut arracher les yeux, là. Il faut les arracher. Ton regard ne peut être que désormais un regard spirituel. Les choses de Dieu, tu dois admirer la nature de Dieu, pas la convoiter. Quand tu regardes une personne, c'est pour ne pas la convoiter. Tu admires la nature que Dieu a fait. Tu admires un véhicule parce que Dieu a donné l'intelligence aux hommes de faire ce véhicule. Ça vient de Dieu. Si dans toute la prédication, Jésus-Christ n'apparaît pas, cette prédication est vaine. Ça ne sert à rien que je sois ici. Si Jésus n'entre pas dans les cœurs, ça ne sert à rien du tout. Les textes passeront. Mais il faut que son amour apparaisse dans la vie de chacun d'entre nous. Et Christ va dire, va-t'en Satan. La surprise, c'est de voir qu'il a dit la même chose à un de ses apôtres. Il a dit dans Marc 16, 22, il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Des fois, quand je vois la vie des apôtres, je me dis, c'est merveilleux d'avoir vécu aux côtés de Christ, mais des fois, je me dis, c'est dur. Tu es avec quelqu'un depuis des années. Tu es en train de lui dire, je n'aimerais pas qu'il t'arrive quelque chose de mauvais, que tu meurs à la croix. Le gars, il te dit, arrière de moi, Satan. Franchement, mais ça c'est comment? Ça, c'est quel genre de personne, vraiment, de te parler comme toi, tu es devenu Satan. Pierre comprendra plus tard que le diable était entré en lui pour casser la mission salvatrice. Parce que si Christ n'était pas là à la croix, mes chers amis, ce matin, nous ne serons pas ici. Personne. On serait peut-être cannibale dans une tribu quelque part. Non, mais c'est ça. Sans Jésus, ce serait ça. Déjà là, vous voyez comment l'homme est violent, hein. On tue des gens, oh non, mais ça peut arriver, tout ça. Intellectuellement, on peut vous expliquer pourquoi on tue des gens sur cette terre. Enfin. Là, Jésus est venu. Mais sans Jésus, que serons-nous? Que serions-nous? Christ nous a fait grâce. Christ nous a fait grâce. Ton seul Dieu que tu dois adorer jour et nuit, mes amis, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Parce que lui a versé son sang pour toi. Et savez-vous, dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, après je termine, c'est trop passionnant, franchement. Ah Jésus, c'est passionnant. Dans Genèse 3, Dieu a mis des chérubins devant le jardin d'Éden. On ne peut plus entrer, parce qu'il y a l'arbre de la vie. Mais vous savez qu'en Christ, désormais, tu peux entrer dans le jardin. Parce que l'épée des chérubins qui tourne, quand le sang du Christ arrive, l'épée s'arrête de tourner, toi tu passes. Celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est pour ça que Christ te dit, je suis le pain de vie. Tu as accès désormais à l'arbre de vie. C'est-à-dire même le chérubin ne peut plus t'arrêter. C'est la grâce que Dieu t'a fait. Et ce matin, s'il y a des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, moi, je vous invite à la fin du culte à venir. Parce que maintenant, le Seigneur se présente devant toi. Comme il le dit dans Deutéronome 30, « Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. » Le pape a dit une chose très choquante. Et après, il y a eu des démentis. L'enfer n'existe pas. Si on dit à quelqu'un « L'enfer n'existe pas », c'est la fête. C'est la fête sur cette terre. Je peux faire ce que je veux, j'irai jamais en enfer. La parole de Dieu est parole de vérité. Si la Bible dit « L'enfer existe », on peut monter, descendre, la Bible est vérité, ça veut dire que l'enfer existe. Si je n'ai pas accepté Jésus, Jésus attend, il te parle, il te parle, il te parle, mais au bout d'un moment, quand ça se referme, quand on part d'ici, sans avoir connu Christ, c'est l'enfer. Et voyez-vous, Dieu se présente en amour. Dieu ne vous présente pas l'enfer, mais il vous présente l'amour pour pouvoir venir à lui. Et la grâce de Dieu, c'est de savoir que ah, le Seigneur est bon. Même tout à l'heure, lorsque je vous indique le schéma par lequel la vie d'un chrétien, vous l'avez compris que la vie du Christ, c'est la vie du chrétien. Tu passeras par la tentation. Tu passeras par la tentation. Mais Dieu t'a fait grâce parce que désormais, ce n'est plus une tentation. C'est une épreuve. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. La grâce de Dieu, c'est de voir que même dans la tentation de Satan, Dieu le transforme en épreuve dans ta vie et cette épreuve, Dieu te donne la force de sortir de là. Des fois, vous dites, c'est trop. On se dit, c'est trop lourd, j'y arriverai pas. C'est insurmontable. Non, Dieu te donne la force à travers son Fils de sortir de là. Et voyez-vous les attaques du diable, la façon dont il attaque un des frères, Jean, dans 1 Jean 2, versets 15 à 16. La surprise, c'est de voir que les attaques du diable sont déjà détaillées. Il est dit, 1 Jean 2, versets 15 à 16, « N'aimez pas le monde, ni ce qu'il y a dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du diable. » Les trois attaques sont relatées. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de lire la tentation du Christ. Si tu lis 1 Jean 2, 15 à 16, tu sais comment le diable opère pour attaquer. N'aimez pas le monde. Je termine par une image. Pendant des années, j'aimais beaucoup regarder la Coupe du Monde. Dans les années 80, avec un de mes cousins, c'est le Brésil qui jouait. Nous nous sommes mis dans une chambre à côté, à genoux, on priait pour dire « Seigneur, il faut que le Brésil gagne cette Coupe du Monde. Ah Seigneur, ah Seigneur !» Et l'Italie avait gagné. Quel désespoir. Pour des gamins de 8-9 ans. Mais voyez-vous, mes amis, quand aujourd'hui, j'ai entendu dans un documentaire que la dernière Coupe du Monde en Allemagne, les Allemands avaient besoin d'un renfort. La surprise, c'est qu'ils avaient besoin d'un renfort en prostituées. Il leur en fallait 16 000 encore pour pouvoir assouvir les besoins des hommes qui venaient regarder ces matchs. Oui, ces choses-là ne sont pas pour nous, mes amis. Ces choses-là ne sont pas pour nous. Ce monde n'est pas pour nous. Parce que derrière ce monde, il y a un rideau, il y a des horreurs, il y a des choses horribles. Et comment le diable nous a eu plusieurs fois sur le péché sexuel, sur le péché visuel. Mais désormais, au nom de Jésus-Christ, toutes ces choses sont finies. Je suis venu te dire ce matin que toutes les attaques que le diable avait contre toi, Christ les a vaincues à la croix. Et désormais, c'est fini. Place ta confiance en Jésus-Christ. Que ceux qui veulent suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur puissent se lever. Que ceux qui veulent qu'on prie pour eux puissent se lever. Je vais terminer par une prière.
une prière par rapport à ce message, que ceux qui ont le sentiment qu'ils sont tombés par la convoitise de la chair puissent se lever pour prier, que ceux qui ont le sentiment qu'ils ont été orgueilleux qu'ils puissent se lever pour prier, que ceux qui ont eu le regard qu'il ne fallait pas puissent se lever pour prier. Jésus-Christ,